Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Sébastien Labarre. Aujourd'hui, nous parlons des rites, fêtes et célébrations de l'humanité avec Thierry-Marie Courault, Roberta Colou, Hervé-Élie Bocobza, Pierre Dara. Thierry-Marie Courault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Roberta Colou, bonjour, vous êtes anthropologue. Pierre-Élie Bocobza, vous êtes talmudiste.
Hervé,
décidément, vous voyez, comme vous êtes très nombreux, je suis complètement...
C'est pas grave.
Mais bon, c'est pas grave, hein. on avance. Pierre Diarra, bonjour. Vous êtes anthropologue des religions africaines et théologien. Alors, vous êtes effectivement particulièrement nombreux ce matin. Nos auditeurs ne sont pas invités à ce qu'on ait autant d'invités, puisqu'effectivement, d'habitude, nous avons plutôt un ou deux invités. Mais comme c'est un livre collectif très important, un magnifique ouvrage que vous avez, auquel vous avez tous participé, « Rites, fêtes et célébrations de l'humanité » aux éditions Bayard, qui s'intéresse à toute la dimension justement rituelle et festive de l'humanité à travers les différentes cultures, traditions. Il nous a semblé intéressant d'avoir divers points de vue et vous souhaitiez donc que chacun puisse apporter un point de vue de sa spécialité. Donc on va peut-être commencer avec vous, Roberta Colou, sur la question d'un des plus anciens rituels de l'humanité tel qu'on peut le connaître. Ce sont les rituels de la mort. Est-ce que ce ne sont pas finalement ce que les anthropologues peuvent découvrir comme les plus anciens gestes religieux de l'humanité?
Je vous remercie, Frédéric, de nous donner l'occasion de présenter cet ouvrage. Je voudrais d'abord revenir, avant de répondre à votre question, sur la structure éditoriale
que vous avez dirigée, que
j'ai coordonnée. C'est un ouvrage qui s'est attendu, dans la rédaction, s'est attendu sur 2 ans. Et qui a été donc préparé par une équipe de chercheurs. Il s'agit d'universitaires et aussi de théologiens. Donc il est le fruit d'une collaboration entre les sciences humaines, si j'ose dire, et la théologie. Et nous avons choisi justement d'organiser l'ouvrage en 7 mondes religieux qui composent en fait l'intégralité du livre. Et à l'intérieur de ces 7 mondes religieux, nous avons plusieurs familles religieuses particulières et des aires géographiques. Donc déjà une première distinction entre les familles religieuses et les aires géographiques, car il a fallu identifier les différents courants, donc les grandes familles religieuses, et tout d'abord les 3 monothéismes, ce que l'on appelle couramment les 3 monothéismes, des autres aires géographiques, c'est-à-dire le monde bouddhiste, le monde indien et effectivement le monde afro-amérindien. Il faut d'abord distinguer justement, pour répondre à votre question, les religions monothéistes des autres mondes religieux, car les religions monothéistes dites prophétiques ont un rapport très particulier, très spécifique à la transcendance. Effectivement, dans ces 3 religions, on identifie l'absolu comme étant un être personnel, donc un être qui s'est auto-révélé à l'être humain, alors qu'on a une conception dans les autres religions qui est plutôt impersonnelle. Donc il s'agit d'un rapport direct au cosmos, et donc l'absolu fait un avec l'univers et l'être humain. Donc par rapport évidemment au rite lié à la mort, c'est là que c'est juste ce rapport à la transcendance. L'homme qui identifie la transcendance comme un être absolu, effectivement, va essayer de se relier à cette transcendance en essayant d'accompagner le passage vers l'au-delà, qui devient un passage qui est plutôt la préparation à une rencontre avec un être personnel. Alors que dans les autres religions, effectivement, cette rencontre se fait de manière différente et commence déjà sur Terre, avec cette union très stricte avec la nature, le cosmos et les éléments aussi qui composent l'univers. Donc effectivement, nous avons surtout des traces archéologiques qui montrent ce lien à la mort dans des peuples anciens, dans des anciennes peuplades, et qui montrent à quel point l'homme, justement, veut se rassurer avec des objets rituels et veut être accompagné dans ce passage qui commence dans la famille, à l'intérieur de la société où il a vécu.
Alors c'est tout la question aussi du culte des ancêtres qu'on va voir, qui est très ancien,
tout à fait.
Qui existe à peu près dans toutes les aires culturelles de l'Antiquité. Aujourd'hui, ça existe encore particulièrement, je crois, dans le monde africain, on peut retrouver. Donc je peux peut-être nous dire un mot de la manière dont on ritualise la mort en Afrique lorsqu'on n'est pas dans des traditions monothéistes.
Oui, alors il y a le rapport aux ancêtres, le rapport aux ancêtres qui est très fort. Qui fait d'ailleurs que souvent les religions traditionnelles africaines peuvent être désignées comme les religions des ancêtres, en ce sens qu'il y a un lien qui est vécu au quotidien avec ceux qui sont reconnus comme des ancêtres, donc les parents, les grands-parents qui sont décédés et qui ont eu une vie avec une moralité reconnue, qui ont eu un lien avec les autres ancêtres qui étaient déjà donc dans l'au-delà et qui ont eu aussi, d'une certaine manière, une relation avec le divin, avec Dieu, où on peut percevoir aussi un monothéisme et où on pense que les ancêtres qui sont déjà dans l'au-delà peuvent servir de lien, d'intermédiaire avec Dieu, d'une part pour transmettre les doléances, les prières et les demandes des vivants visibles à Dieu, et d'autre part, recevoir la bénédiction de Dieu, les bienfaits que Dieu veut bien accorder, en passant donc par les ancêtres pour atteindre les vivants, ce qu'on pourrait appeler les vivants visibles. Donc il y a ce lien qui est très fort et qui fait que les ancêtres ont une place vraiment privilégiée et que donc durant l'expérience humaine, durant la présence sur Terre, il faut être en lien avec eux et c'est eux aussi qui vont donc accueillir le défunt quand il va arriver, qui fait que le rituel de la mort va être très concentré sur ce voyage que chacun va effectuer en direction des ancêtres, d'une part ici et de l'autre côté. On suppose généralement que le voyage est long, qu'on aura besoin d'eau, qu'on aura besoin de savon pour se laver les habits, qu'on aura besoin de se nourrir. Et donc, il faut leur donner tout cela en signifiant clairement que tous ces éléments ne vont pas suffire et que dans l'au-delà, il faudra des gens, des êtres invisibles qui aideront le défunt à parcourir le long chemin qui va les conduire jusqu'aux ancêtres.
Mais vous disiez, on devient ancêtre, c'est-à-dire qu'est-ce que toute personne qui meurt devient ancêtre ou non ? Certains le sont et continuent d'être appelés, priés, etc. Et d'autres ne le sont pas.
Oui, tout le monde ne devient pas ancêtre, c'est ceux qui ont une vie reconnue comme bonne, qui ont une certaine moralité, une descendance sur Terre et qui peuvent être présentés comme des modèles de vie bien assumée, bien vécue. Et donc, on pourrait, en rapprochant aux chrétiens,
c'est
une certaine canonisation.
C'est la question que j'allais poser à Thierry-Marie Courreau.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a chez certains peuples d'Afrique une sorte de célébration où on reconnaît officiellement que la personne est devenue ancêtre et ça peut se passer un an, deux ans, parfois même 10 ans après donc le décès. Donc il y a toute une enquête, on pourrait dire, où justement on essaie de voir est-ce que la personne, compte tenu de ce qu'elle a vécu, compte tenu de sa moralité, compte tenu du lien qu'il a établi avec les ancêtres, compte tenu de tous les rites qu'il a peut-être organisés au niveau de la famille, est-ce qu'on peut lui reconnaître le titre d'ancêtre ?
Est-ce qu'on peut avoir peur aussi des ancêtres ? Est-ce qu'on les craint ?
Alors, bien sûr, on les craint, surtout si on pense ne pas être en accord avec eux. Et c'est d'ailleurs un peu une sorte d'ambiguïté dans la mesure où on pense que les ancêtres font surtout du bien, mais les ancêtres aussi peuvent, peut-être dans un souci d'éducation, envoyer quelques, comment dire ça, prévenir les vivants qui sont pas contents et que la vie de la famille ne se passe pas comme ils l'auraient souhaité. Et donc, on peut interpréter une maladie, un accident ou d'autres choses qu'on a eues comme justement un signal, un avertissement des ancêtres pour qu'on se remette dans le droit chemin.
Lélie Envard, bonjour.
Oui, bonjour. Justement, alors quand on a parlé de peur, est-ce qu'on peut dire que le rite, finalement, il a pour but à la fois de juguler cette peur, quelle que ce soit la peur de mourir ou la peur d'aller en enfer si on ne fait pas le rite comme il faut, etc. Et en même temps, qu'il est le lieu d'une espérance, c'est-à-dire qu'il se situe vraiment entre ces deux pôles et que donc les rites de la mort ont été au début très importants à cause de ça, parce qu'après tout, on a des très beaux passages chez Homère ou dans l'Énéide, dans lesquels on voit des personnages aller dans le pays des morts, et on leur dit, en fait, ceux qui finissent mal, c'est pas ceux qui ont mal agi, ce sont ceux pour qui on n'a pas fait le rite de la mort comme il faut. C'est pourquoi c'est si important. Bon, ça a donné beaucoup de littérature, on sait que c'est le problème d'Antigone, par exemple, qui doit absolument enterrer son frère, parce que sinon, il va errer. Et du coup, comme on n'a pas fait le rite comme il faut, soi-même, on va être pris en défaut, en réalité, le jour où on va mourir, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que les morts vivent en paix. Donc, on peut dire que le rite est là, entre les deux, entre la carotte et le bâton, si j'ose dire.
J'ai presque envie de dire qu'il y a trois aspects. Il y a d'abord le rite pour accompagner celui qui va partir, quelle que soit sa moralité, on pourrait dire. Donc, on l'accompagne et cet accompagnement le concerne, mais concerne aussi les vivants. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a ceux qui peut-être ont du mal à partir, qui peut-être n'étaient pas prêts ou qui ont des êtres qui leur sont très chers et qu'ils aimeraient bien emporter avec eux et donc qui se transforment, selon certaines traditions africaines, comme des fantômes. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle le rite de séparation des vivants et des morts et lui faire comprendre que désormais, il est de l'autre côté, il faut qu'il accepte ce sort et qu'il poursuive son chemin, son voyage vers les ancêtres. Et puis, il y a un autre rite où, justement, on est inquiet parce qu'on ne sait pas trop si ça s'est bien passé, s'il est vraiment arrivé. Et à ce moment-là, il peut y avoir des rites où, justement, on demande aux ancêtres d'être cléments, d'être miséricordieux et d'accepter, donc, d'accueillir ce vivant donc, qui est parti vers eux et qui fait que, bon, on est encore inquiet. Donc, c'est pour rassurer aussi les vivants, mais pour demander aux ancêtres et peut-être les êtres invisibles qui se trouvent dans l'au-delà de bien vouloir faire le nécessaire pour qu'ils aillent jusqu'aux ancêtres.
Hervé Libekomza, la question justement du rituel de la mort dans le judaïsme et la relation que les vivants entretiennent avec les morts, quelle est-elle par rapport à ce qu'on vient de dire, notamment dans le monde africain ?
Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je voudrais juste faire un retour sur la conception biblique qui est assez intéressante. On voit que dans la Bible, le premier fratricide, lorsque Caïn tue son frère Abel, il y a un midrash. Alors un midrash, c'est un texte qui est issu de la tradition juive, qui est surtout rabbinique, qui a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'il a pu se passer une fois que Caïn a tué son frère Abel. Donc Caïn a été dérouté, il ne savait pas quoi faire de ce corps. Il était comme ça, devant un corps. C'est le premier corps qui meurt dans l'histoire de l'humanité. On n'est pas dans l'historico-critique, évidemment, on est dans le récit biblique. Et le Midrash nous raconte que tout d'un coup, il voit un petit oiseau qui vole comme ça. Et puis, sur le sol, il y a un oiseau qui est mort. Et le petit oiseau, avec son bec, il picore le sol et il fait rentrer l'oiseau mort à l'intérieur du sol et il le recouvre. Et c'est là qu'il comprend que doit s'accomplir le verset biblique qui dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Et donc, il enterre le mort. Donc, cette idée d'enterrer le corps, c'est d'abord de dire je suis venu ici pour un passage et je reviens à ma source initiale. Et pour retourner à cette source initiale, Donc je me redistribue, si je puis dire, à la réalité terrestre, qui est donc la réalité du monde, puisque d'une certaine façon, je continue à vivre parce que j'alimente le sol terrestre qui fait vivre l'humanité. Mais après, on voit que dans l'histoire biblique, à chaque fois qu'il y a une personnalité importante qui meurt, alors il y a toujours un arrêt dans le texte. On trouve par exemple chez Abraham, quand il revient du sacrifice d'Isaac, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Sarah qui est morte, sa femme qui est morte. Et ça, c'est très intéressant. Moi, quand j'étais enfant et que j'ai lu ce texte, j'étais toujours fâché avec la Bible, parce que dans la tradition juive, on dit qu'Abraham a subi 10 épreuves et on ne compte pas celle-là. Alors qu'il était sur le point de sacrifier son fils et qu'il ne l'a pas sacrifié, il retourne du mont Moria et il voit sa femme qui est morte. Et là aussi, les textes midrashiques disent une chose extraordinaire. Ils disent que quelqu'un est venu annoncer, parce que Sarah s'est inquiétée, il est où mon mari, il n'est pas rentré du travail, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un va lui annoncer, bah, tu sais, il est allé sur la montagne pour sacrifier son fils, mais il n'avait pas eu le temps de lui dire, mais finalement le sacrifice n'aura pas lieu. C'est trop tard, une mère juive, vous imaginez, elle n'a pas supporté, elle est morte. Et le verset nous dit qu'Abraham a pleuré, Sarah. Et la même chose, on trouvera dans le désert, lorsque Myriam va mourir, Aaron, Moïse, enfin ce sont des personnages qu'on ne présente plus. Pourquoi ? À mon avis, il y a une situation où l'homme, lorsqu'il perd un de ses proches, on l'a tous certainement vécu, en tous les cas, moi je peux aussi parler par rapport à ma dimension intime, il y a un arrêt sur image. On se demande comment on va continuer à vivre alors qu'un de nos proches avec qui on était reliés, il n'est plus là. Alors, à partir de là, il y a cette dimension qu'on lit dans les psaumes. Le roi David, il dit, j'aime bien dire cette phrase en hébreu, « Vatishkar kemet milev, permets-moi d'oublier comme on oublie le mort du cœur. » Il y a un décret que Dieu a permis, c'est qu'au bout d'un certain moment, on finit par oublier le mort. Alors, si on oublie le mort, à quoi ça sert ? Comment on peut oublier nos proches ? En réalité, la mémoire, c'est la mémoire du vivant. Puisque lorsque nous commémorons l'histoire du mort, on commémore ce qu'il a vécu. Et la vie, elle ne s'oublie pas. La vie, elle perdure. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on oublie en réalité ? On oublie l'absence de l'être. Mais la réalité qui nous a accompagnés, son histoire, son récit, et s'il a écrit des livres, c'est encore plus fort, puisque le Talmud de Jérusalem, il dit que lorsqu'on étudie un auteur qui est déjà mort, on permet que ses lèvres, elles prononcent dans sa tombe, avec nous, les phrases que nous sommes en train de dire. C'est une façon de dire que la vie, ce n'est pas simplement les 70 ans ou 80 ans, ou peut-être même un peu plus, qu'on vit sur la Terre, mais c'est aussi la trace qu'on a laissée et qui continue à nous accompagner. Pour le judaïsme, le salut, c'est quelque chose d'abstrait. On en parle dans les textes, il y a des livres entiers qui peuvent élaborer cette question-là. Mais la réalité, elle est terrestre. La réalité, elle est ici. C'est ici que tout se joue. Et si on doit parler de l'eschatologie, on doit parler du salut, alors j'aime citer Soloveitchik, qui est un grand auteur juif, qui dit « C'est pour permettre à l'homme de faire glisser l'eschatologie dans l'ici et maintenant de notre monde et de notre réalité. » Donc à partir de là, si le mort, c'est pour s'accabler et pour continuer dans la souffrance, c'est inutile. Ce qu'il faut, c'est que ça nous aide à comprendre que nous, on est certainement le prolongement de nos ancêtres et que nous aussi... comme a dit Pierre Diarra sur la notion d'ancêtre, on sera peut-être l'ancêtre de quelqu'un qui viendra après nous et qui continuera notre histoire.
Alors on comprend bien effectivement ce que vous expliquez, que il n'y a pas effectivement dans le judaïsme beaucoup de relations avec les morts, c'est-à-dire qu'ils sont vivants dans notre cœur, à travers la mémoire, à travers la trace. Mais dans le christianisme, par contre, j'ai l'impression, Pierre-Marie Courault, qu'on a développé beaucoup plus, comme dans les mondes africains dont on parlait tout à l'heure, une relation avec les morts, à cause peut-être de la notion de résurrection du Christ et de ce fait qu'on pense que les morts sont vivants, qui continuent d'exister en Dieu dans un autre état. Et on a vu dans l'histoire notamment du catholicisme, il y a tout un lien très très fort qui s'établit entre les vivants et les morts.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'événement pascal, donc, de la mort et de la résurrection du Christ, est en quelque sorte l'armature centrale de la vision que l'on peut avoir de la vie au-delà de la vie, enfin, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que par excellence, le Christ, c'est le vivant. Hein, et c'est le vivant qui emmène l'ensemble de l'humanité, de tous les temps et de tous les espaces, finalement, dans ce lieu de vie qui est Dieu lui-même. Donc, ce qui est très surprenant, c'est qu'en même temps, dans le christianisme, il y a une espèce de pudeur par rapport à ce qui va se passer après la mort. On en parle très peu, si ce n'est pour dire, comme vous venez de le dire très, très précisément, c'est que le défunt vit en Dieu, dans la mesure où il s'est laissé accueillir en Dieu. Puisque finalement, c'est ça le grand mystère, c'est que la vie de Dieu, c'est l'amour, et cet amour est donné et livré à chacun de se décider en quelque sorte pour le recevoir ou au contraire pour y renoncer. Et que celui qui se donne à recevoir cet amour qui vient de Dieu, ben, vit de cette vie même de Dieu. Et du coup, effectivement, la relation que les vivants peuvent avoir avec les défunts va être resituée dans cette vie amoureuse, pourrait-on dire, avec Dieu. Et alors, c'est très intéressant l'échange qu'on vient d'avoir, parce qu'on a pu voir comme ça en quelques instants comment finalement il y a des visions très différentes entre les différents mondes que l'on peut avoir, alors même que cette question de la mort, elle est partagée par tous.
Alors, et le point commun, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas de civilisation qui n'ait pas de rite, et en particulier qui n'ait pas de rituel autour de la mort.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Quelle que soit la culture ou la religion. Ouais. Donc ça veut dire quand même que, alors pour en revenir au rite, justement, que le rite doit quand même réactiver quelque chose, une relation entre le plan terrestre et le plan invisible, pour ne pas dire céleste. Et donc comment ça, j'ai quand même l'impression que ça s'articule très différemment, là, pour le coup. Tous ont un rituel, ouais. Tous ont l'idée que finalement, ce rituel permet de participer à l'éternité de l'âme, parce qu'en fait, c'est ça qui est en jeu, et à sa vie après la mort. Mais c'est pas toujours... ça n'a pas toujours la même fonctionnalité. Ouais. Peut-être parce que dans notre monde moderne aussi, les choses se sont perdues. Peut-être que c'était plus fort aussi dans les temps plus anciens. Cette croyance profonde, le rite quand même réactive une croyance profonde.
Oui, je pense que dans le rite, il va y avoir plusieurs aspects. Il y a celui-là que vous venez de mettre en valeur. Mais il y a, je pense aussi, c'est que tout rite participe au rythme de la vie. Et on peut dire qu'en quelque sorte, cet événement de la vie qui est la mort va être un des moments du rythme extrêmement, extrêmement fondateur. Je dirais, dans toutes nos vies, nous avons des petits rites, on pourrait dire, y compris la façon dont nous nous levons ou nous nous couchons, et puis des rites plus importants, même au niveau national, les fêtes citoyennes, etc., et puis la dimension religieuse. Et là, certainement, que ce grand moment dans le temps, dans le calendrier d'une personne ou d'une communauté qu'intervient la mort, est absolument significatif. Mais ce que l'on a pu entendre, c'est que finalement, un homme, c'est quelqu'un qui appartient à une vision du monde, enfin qui est associé à des représentations. Et c'est ce qui fait que même si l'événement de la mort survient partout, en même temps, la façon dont il est mis en cadre, ou le cadre dans lequel il est mis, va jouer dans la façon de réagir ou d'agir. Et il me semble que c'est là où il nous faut travailler, sur cette diversité des situations, alors même que nous aimerions bien que finalement, de par le monde, tout le monde réagisse peu ou prou de la même manière. Et ça, je pense que c'est notre grande difficulté d'accepter cette dissemblance. Et je crois que le travail que nous avons fait dans cet ouvrage, ça a été véritablement d'accepter de ne pas entrer dans une projection rapide qui nous aurait laissé croire qu'on aurait accès à ce qui était découvert.
Oui, vous avez renoncé au syncrétisme et c'est une très bonne chose.
God got the key and you can't get in. Listen, how's it raining? Will you listen? How's it raining? Just listen, how's it raining? All day,
all night, all night, all day. Just listen, it's raining. Just listen, it's raining. Just listen, it's raining. Some moaning, some groaning, some groaning, some praying. Well, oh.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous parlons d'un très bel ouvrage publié chez Bayard, Rites, Fêtes et Célébrations de l'Humanité, sous la direction de Thierry-Marie Courault et Henri de la Hougue. C'est donc l'Institut des Religions de la Cato qui a dirigé cet ouvrage avec de nombreux auteurs. Quelques-uns sont parmi nous pour nous en parler aujourd'hui. Je voudrais qu'on reparte avec vous, Roberta Colou, sur une question qui est très importante. C'est la question effectivement des fêtes. C'est la question au fond de la sacralisation de l'espace et du temps. Alors on va peut-être plus davantage parler maintenant de la sacralisation du temps, et on voit qu'effectivement dans toutes les cultures, le temps est sacralisé à travers un certain nombre de fêtes, à travers un certain nombre de rituels qui sont là. Expliquez-nous un petit peu déjà le fondement anthropologique de ça, qu'on va trouver dans toutes les cultures de manière diverse.
En effet, je dirais que la fête religieuse inscrit l'individu dans une relation particulière, justement, au temps. Et je dirais que dans les différentes religions, nous avons une dimension, une relation au temps qui peut être linéaire ou cyclique. Encore une fois, dans les trois monothéismes, le rapport au temps est linéaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une évolution historique à travers des enchaînements, des événements, une réactualisation aussi de l'histoire qui s'est faite grâce à cette intervention directe de la divinité, en fait, dans l'histoire de l'homme. Alors que dans les autres religions, notamment dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, le rapport au temps est cyclique. Vous avez un cycle qui se répète, et effectivement, le calendrier change aussi, ainsi que le rapport que l'être humain peut donc instaurer avec justement son histoire personnelle et le calendrier en général de sa communauté. Et je dirais que le temps est lié aussi à l'espace, car effectivement, les fêtes, ce sont des marqueurs pour une communauté, et des marqueurs qui sont significatifs aussi, car effectivement, la communauté vit et se reprend vie à travers ce moment partagé où elle va trouver les sources aussi de son origine, car effectivement, souvent, les célébrations festives, ce sont aussi des commémorations historiques. Et c'est une manière aussi, par exemple, de légitimer l'existence d'une ville ou même d'une société, car effectivement, la fête va récélébrer la fondation de cette ville ou de cette communauté. Et évidemment, il y a une transmission, et les nouvelles générations peuvent se retrouver dans cette célébration et vivre un moment aussi identitaire, qui peut être très fort, car évidemment, c'est une manière de se relier aussi à une chaîne de transmission.
Alors on voit très bien un exemple de ça, Hervé Libocomza, dans la Bible, où effectivement on commémore les moments fondateurs. Donc expliquez-nous un peu comment d'ailleurs on peut dire que toute la vie du juif est marquée par une commémoration de ce qui s'est passé dans les temps anciens, avec le passage de la mer Rouge et la Pâque, la fête des cabanes, etc. Expliquez-nous un petit peu cette fonction de la fête dans le judaïsme.
Moi je voudrais commencer mon propos avec une citation d'un rabbi juif qui s'appelle Shneur Zalman de Liadi, qui est mort en 1812 et qui vivait en Russie. Et c'est avec cette citation que j'ai inauguré mon travail, parce que je trouve que ça rejoint tout à fait notre question. Il écrit la chose suivante. « La joie de la maison d'Israël face à Dieu est comparable à celle que l'on prend quand on danse. Un danseur s'éloigne de son compagnon, puis il s'en approche à nouveau. » L'éloignement conditionne le rapprochement, car il n'est pas réel, puisqu'il ne concerne pas les sentiments intérieurs. Il est simplement dû au stade de la danse. De même, la joie de la maison d'Israël vient de ce que l'éloignement de Dieu n'est pas réel et qu'il est suivi d'un rapprochement. C'est-à-dire qu'à certains moments, dans la vie du juif, justement, il y a des étapes successives. Il y a des moments où il est confronté à sa vie, à ses problèmes, et parfois, il oublie de se poser, il oublie de revenir vers lui. Et donc, il y a des moments où on s'arrête, on se pose, on réfléchit, on médite. Et c'est ça, cette notion des fêtes juives, justement, parce que ça nous accompagne toute l'année, mais la réalité, c'est le profane, c'est la semaine, c'est quand on doit courir pour aller au boulot, pour prendre un taxi, pour faire ses courses, etc., pour aller travailler. Donc on voit bien que ces moments-là sont des moments où on se recharge, un peu comme dans une voiture, où on va mettre de l'essence. Alors pour revenir à ce que j'avais dit avant, tout à l'heure, on voit bien que le judaïsme est une religion qui est complètement incarnée, qui s'intéresse au monde, qui s'intéresse à la réalité terrestre. Non qu'elle dénie le salut, non qu'elle dénie la spiritualité, mais ce qui compte, c'est de faire habiter Dieu ici dans ce monde. Il y a un très beau midrash qui dit « Pourquoi Dieu il a créé le monde ?» Parce qu'il avait un désir. Quel était son désir ? De résider ici. Et Isaac Lourien, un des grands maîtres du kabbalisme du XVIe siècle, il dit « Qu'est-ce qui manquait à Dieu pour être parfait ? C'est d'exister dans la limite. » Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc le monde, c'est une façon de dire « Même dans les choses limitées, je suis aussi là, je me trouve aussi. » Donc le judaïsme, c'est une foi, et certainement une foi, mais c'est surtout une réalité où on prend l'instant présent et on lui donne une vraie dimension. On essaie de réfléchir quelle est sa portée, en quoi ça peut nous aider à nous réaliser. C'est ça la dimension des fêtes juives. C'est-à-dire que la dimension des fêtes, elle incarne le juif de plein pied dans l'histoire. Si vous prenez la Bible, la Torah, les évangiles eux-mêmes appellent la Torah la loi. Et pour moi, on ne pourrait pas donner une meilleure appellation. Le texte de la Torah, donc le texte de Moïse, les cinq livres, c'est vraiment un texte de loi. Or, quand on lit ce livre, qu'est-ce qu'on voit ? Une histoire. On ne parle pas de loi. On va édicter des lois, mais toutes les lois sont définies dans un contexte de l'histoire. Pourquoi ? Parce que ce peuple, il vit au rythme de ces lois. C'est-à-dire que chacune des lois n'est pas simplement un code qui peut être civil ou religieux, qui engage l'être humain, mais c'est aussi quelque chose qui l'accompagne au quotidien dans sa vie. Ce qui fait que pour le judaïsme, l'incarnation dans l'histoire, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la raison pour laquelle, je le dis dans plusieurs de mes livres, que lorsque Dieu s'annonce dans la première parole des 10 paroles, il ne dit pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde ». Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Parce que pour être un peuple, il faut avoir une histoire commune. Et la sortie d'Égypte, donc ce qu'on a parlé, l'esclavage en Égypte, etc., elle marque le début d'une histoire d'un peuple qui va pouvoir être racontée sur le banc des écoliers. Tiens, on est à la même école, on apprend la même histoire, donc on a quelque chose qui nous relie. Donc on peut maintenant se retrouver autour de valeurs communes et aller vers un destin commun. Donc l'histoire juive, c'est toujours cette continuité-là. Et par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure, le Talmud compare, il y a dans le Talmud 6 ordres. Un des ordres du Talmud, c'est Zraïm, l'ordre des plantations. Et le Talmud, il dit, qu'est-ce que c'est la plantation ? Qu'est-ce que c'est produire de la terre ? C'est basé sur la foi. Pourquoi ? Parce que celui qui plante un arbre, c'est celui qui croit en la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il plante un arbre. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, même si moi je ne serai pas là pour en jouir, mes descendants viendront et pourront jouir de cet arbre. Ça veut dire que s'il y a lieu de parler d'éternité, c'est d'abord ici que ça se passe. C'est parce qu'ici on a fait quelque chose, on a mis une graine dans le sol et on a permis que cette éternité elle s'incarne dans l'instant présent.
Cette dimension de la fête en Afrique, comment est-ce qu'on peut donner quelques exemples ?
Je voudrais faire un détour par le monde amérindien,
oui, avec plaisir, que j'ai aussi coordonné, oui.
Où justement il est souvent question de participer à la danse du monde, le monde qui a été créé, mais dont on a besoin de célébrer de célébrer un passé, un présent et même un futur, où les êtres humains, dans les rites qu'ils célèbrent, ils participent en fait à une grande danse qui les dépasse et qui rejoint tout l'univers et qui est un peu la danse du monde. Et donc, il faut du temps pour préparer les costumes, il faut du temps pour préparer tout le nécessaire pour cette grande fête qui va en fait associer l'ensemble de l'univers à travers le rite et à travers donc la célébration des humains à tout ce qui se fait de beau, de joyeux dans le monde et qui doit être célébré pour justement renouveler un peu, on pourrait dire, la face de la Terre. Donc il y a cet aspect qui me semble très intéressant par rapport au temps. Et puis par rapport à l'Afrique, moi j'ai pensé à deux choses en écoutant ceux qui viennent de parler. Il y a le temps qui est lié à l'individu et le temps qui est lié au groupe. Le temps qui est lié à l'individu, c'est tous les rites qui sont liés à différentes étapes de la vie d'un individu, par exemple la naissance, le mariage, la maladie.
Ça, on retrouve ça dans toutes les traditions, voilà. C'est les rites de passage des âges de la vie.
Voilà, où il y a des rites en fait, et en même temps, on veut l'associer à un nombre plus grand. Par exemple, ceux qui vont être initiés, on va prendre toute une classe d'âge, donc des gens qui sont nés à peu près sur la même période, et ensemble, on va leur faire sentir ce qui est important pour le groupe. Donc, en fait, le groupe, en célébrant, par exemple, les fêtes de l'initiation où il peut y avoir différents rites à l'intérieur, eh bien, on associe les individus et même des groupes d'individus, donc la classe d'âge, à un groupe plus important qui les dépasse et qui est chargé de transmettre à travers ces rites tout ce qui est beau, qui a été vécu autrefois, qu'il faut célébrer aujourd'hui pour que demain, ça puisse encore porter du fruit. Donc, il y a cet aspect. Et puis, il y a l'autre aspect dont on a parlé. Ça peut être la fondation, justement, d'un village ou d'une communauté qui peut-être s'est rassemblée à tel endroit, s'est installé à tel endroit et par conséquent, il faut régulièrement célébrer l'arrivée de ce groupe humain à tel endroit. Et donc, ça peut aussi être relié, bien sûr, au travail quotidien, par exemple, les semailles, les récoltes, et où il y a des rites pour justement dire, bon, par exemple, on va remercier les ancêtres qui nous ont accompagnés dans le travail de la terre et qui fait qu'aujourd'hui, on a de quoi se nourrir. Donc, il faut rendre grâce. Et par exemple, la première bière peut avoir une importance. Il faut donner la première bière aux ancêtres pour qu'ils participent aux fruits du travail des humains, parce qu'ils étaient là, ils étaient présents pour accompagner tous ceux qui ont fait le travail, qui fait qu'ils étaient en bonne santé pour pouvoir travailler et gagner le pain quotidien.
Oui, alors, vous parlez les uns et les autres de cette question de la communauté qui est cimentée plutôt par le rite. Et me vient donc une question, si le rite réactive une histoire commune, si elle relie les membres d'une communauté entre eux et qu'elles réactivent donc leur lien, est-ce qu'on peut entrer dans le rite de l'autre? Est-ce qu'on peut participer véritablement, puisque le rite est fondé quand même sur un système de croyances communes? Lévi-Strauss dit, même dans Anthropologie structurale, si je ne m'abuse, qu'on ne peut pas séparer le rite du mythe. Et donc c'est totalement inséparable, les deux sont profondément liés. Donc si c'est ça, un rite, est-ce qu'on peut participer véritablement au rite de l'autre? Entrer dans l'histoire de l'autre.
Alors, je pense que c'est une question qui nous touche tous en profondeur, parce qu'on a tous eu l'occasion, à un moment donné ou à un autre, dans nos voyages, de rencontrer, d'entrer dans un lieu religieux ou de participer à une fête. Et on est toujours à la fois un petit peu à l'intérieur et beaucoup à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est un petit peu à l'intérieur parce que je pense que on entend des choses en résonance avec ce que l'on vit. Et en même temps, on est très à l'extérieur parce que souvent, finalement, on ne comprend pas. Donc, on vit de la chaleur, on vit même de l'émotion. Et je pense que souvent, tous nos sens sont sollicités et donc ça participe de notre émotion. On entend cette résonance qui nous fait parfois rire ou pleurer. Enfin, je dirais tellement ça peut venir nous toucher. Et en même temps, on a un sentiment de ne pouvoir jamais, finalement, entrer dans cet univers-là. Donc, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire en disant, finalement, c'est une communauté qui va célébrer. C'est une communauté qui va répéter ce que ses ancêtres ont fait et qu'ils ont transmis, et que c'est cette communauté-là qui a ses implicites et ses impensés, auquel il ne nous est pas finalement possible d'accéder.
Et les institutions, d'ailleurs, parfois l'interdisent.
Alors, en plus de ça, effectivement, les institutions ont toutes, d'ailleurs, je pense, dans toutes les grandes traditions voilà. religieuses, il y a un moment donné où celui qui n'est pas initié, celui qui ne peut pas entrer, ne peut pas accéder, parce qu'il serait à porte-à-faux, finalement, et voire même, il serait un vecteur qui contrarierait le rite. Je sais, peut-être que Pierre, qui a connu ça...
Oui, je crois qu'il y a... Il y a en même temps dans la fête et dans le rite une sorte d'ouverture à ceux qui sont extérieurs et à la limite, ils peuvent venir jusqu'à un certain point et il arrive un moment où on leur dit vous ne pouvez pas aller plus loin. Je pense bien sûr à l'Eucharistie pour le christianisme, mais même dans les rites traditionnels africains ou amérindiens, il y a cette ouverture qui est symbolisée chez les Amérindiens par la danse où le cercle n'est jamais trop grand. On peut toujours venir, on casse le cercle et on fait venir donc des gens pour qu'ils s'associent. Et au niveau des rites africains, je pensais à ce que j'ai essayé de décrire dans le livre, à ce qui s'est célébré donc au Sénégal, le Boukout, chez les Yola, donc en Casamance, où justement il y a eu une sorte de célébration d'un grand rituel traditionnel qui est propre normalement aux religions des ancêtres et qui a été ouvert aux musulmans, aux catholiques, aux protestants, pour qu'ils s'associent comme si on voulait déposséder les adeptes des religions traditionnelles africaines de leurs rites pour leur dire finalement les valeurs qui sont transmises et qui relèvent de la culture doivent être proposées à tous ceux qui ont soif de rites mais aussi de valeurs pour vivre. Et donc ils ont célébré ensemble cette grande initiation où finalement il n'y avait pas de distinction. Mais en même temps, ceux qui n'étaient pas initiés, comme c'était mon cas, puisque je ne suis pas de cette tradition africaine, eh bien, on n'avait pas le droit d'entrer dans le bois sacré. Et on m'a fait comprendre qu'à l'intérieur du bois sacré, bien sûr, il y avait des choses secrètes, mais on m'a dit, on a fait venir un prêtre, on a fait venir un pasteur, on a fait venir un imam, on a fait venir des responsables religieux pour leur dire, qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Et donc, quelque part, il y a comme une cassure de cette fermeture pour ouvrir. Et en même temps, chacun est resté dans sa tradition et a pu peut-être recueillir quelque chose qui leur semble important dans cette tradition. On m'a même dit qu'on a lu des passages de la Bible pour leur dire, voilà, la Bible dit des choses intéressantes. Et même si on n'adhère pas au christianisme, même si on n'est pas juif, eh bien, il y a des choses qu'on peut retirer pour soi et en vivre. Et bon, on pourrait aussi parler de la nourriture, de la boisson qui est offerte au plus grand nombre, tout en signifiant qu'il y a des aspects du rite ou de la fête auxquels on ne peut pas participer parce que justement on est extérieur, comme disait Thierry Marie Kourou.
Et puis des fois, il se passe des choses tout à fait étonnantes. Moi, j'avais organisé un dialogue entre un lama tibétain et un père abbé bénédictin. Ça avait donné lieu à un petit ouvrage qui s'appelait Le moine et le lama, où ils s'étaient rencontrés pendant une semaine, notamment dans le monastère bénédictin de Kergonan, pour ne pas le citer. Et à la fin de cette semaine, le lama tibétain a été communié. Alors évidemment, le père abbé lui a donné la communion, mais il a dû après s'expliquer à sa communauté pendant des heures, parce qu'on était effectivement dans un moment de communion, on va dire, au plan humain. Cette communion signifiait pour le lama, j'ai adhéré à tellement de choses et je me sens tellement lié avec vous, j'ai envie de participer à votre rite. Mais évidemment, on perdait tout le sens théologique de ce qui était signifié par la communion, qui ne doit se faire qu'entre baptisés, donc selon et encore entre baptisés de la même confession, parce que je crois que les protestants, les orthodoxes et les catholiques peuvent pas communier diversement chez les uns et chez les autres. Donc on voit bien voilà, tous ces mélanges qui peuvent se faire.
Dans le même sens, justement, il y a des musulmans qui sont tellement amis à des chrétiens en Afrique de l'Ouest que quand ils viennent participer aux célébrations des chrétiens, ils se sentent tellement en communion avec eux qu'ils se disent... On va aller communier et ils font souvent cette réflexion qui, moi, m'amuse, en même temps m'interroge. Si ça fait du bien aux chrétiens, ça doit aussi nous faire du bien.
Oui, donc on en conclut que le rite, finalement, c'est comme la face visible de, à la fois des reproches qu'on fait aux religions et peut-être de ce que les religions ont à nous apporter de meilleur. C'est-à-dire, précisément, c'est un lieu à la fois de communion et de division.
Alors, je ne crois pas qu'il faille dire communion et division. Je dirais de communion et de séparation. Parce que ce n'est pas le fait que je ne puisse pas accéder, en quelque sorte, au mystère ou au monde de l'autre, que du coup, c'est une division entre lui et moi. Simplement, c'est une reconnaissance de la limite et de la séparation. Et je pense que ça, c'est très, très important quand on est dans la rencontre des cultures. Mais tout simplement, dans nos rencontres humaines, là, tous les six autour de la table, finalement, nous appartenons chacun à un monde. Pour autant, sous prétexte que je n'ai pas accès à votre monde, je ne me sens pas pour autant divisé avec vous. Au contraire, il y a même un instant, je dirais, de communion, mais parce que dans la séparation, dans la reconnaissance de ce que chacun est, il y a quelque chose qui est rendu possible. Donc, je pense que ce que vous dites, ce qui est très juste, c'est-à-dire que ça constitue la communauté. Ça, on sait bien que finalement, l'être humain, alors là, c'est peut-être le théologien catholique qui parle, c'est d'abord un être de relation. Et que véritablement, cet être de relation, elle va se manifester dans un certain nombre de lieux. Et je dirais d'ailleurs, on n'a peut-être pas suffisamment soulevé cela, mais dans les rites dont on parle, souvent, il y a une dimension, je dirais, de réconciliation. Et en particulier dans les rites liés à la mort. Et de façon extrêmement variée. Parce qu'on sait très bien que finalement, on ne peut pas survivre avec des relations, justement pour le coup, divisées, brisées et de façon trop longue. Et moi, je me rappelle un rite en Casamance aussi, mais il y a 25 ans, j'avais été introduit dans un village au moment de la célébration de la mort de quelqu'un. Et on voyait ce corps était porté sur une civière par deux personnes qui avaient les yeux bandés. Et tout le village était autour. Et on admonestait le mort en lui disant un certain nombre d'horreurs ou autres qu'il avait fait, etc. Et il se déplaçait, donc porté par ces deux personnes, vis-à-vis de toutes les personnes du village. Et c'était un moment que moi, je comprenais que de l'extérieur, mais qui voulait bien signifier qu'il fallait qu'on se réconcilie à ce moment-là avec la vie de ce défunt et que l'ensemble du village y participait. Et ça, je crois qu'on va revoir ça, je pense, dans l'ensemble des traditions.
Roberta Colou, vous qui avez coordonné cet imposant livre « Rites, fêtes et célébrations de l'humanité », il nous reste 3 minutes. Dites-nous ce qu'on n'a pas encore dit, qui vous semble essentiel et que vous voudriez parler à cette occasion.
Oui, il me semble que nous n'avons pas parlé de ce qui fait la spécificité de l'IESTER, l'Institut des sciences et théologie des religions, qui est donc à l'origine de cet ouvrage, à savoir le dialogue interreligieux et donc cette dimension des rencontres de l'autre qui s'est fait, à mon sens, par la compréhension d'abord du monde de l'autre et donc aussi de fait et de tout ce que l'autre vit au quotidien. Donc il ne s'agit pas de partager les fêtes de l'autre dans le sens qu'on se permettrait de vivre des rituels de l'intérieur. Il s'agit de partager les fêtes de l'autre, le temps de l'autre, tout simplement en rentrant en harmonie avec lui et en essayant d'abord de connaître aussi donc sa manière de célébrer. Et je pense que cela passe surtout par la transmission. Il est très important, à mon sens, d'éduquer les nouvelles générations à la connaissance de l'autre. Et dans la France laïque, qui nous offre ce terrain neutre, justement, les enfants doivent être sensibilisés et peut-être pratiquer, entre guillemets, la fête de l'autre, dans le sens d'aller dans les familles donc des enfants issus d'autres religions, même dans les écoles, vivre ce moment différent du calendrier, justement pour promouvoir ce vivre ensemble dont on parle tant. Et je voudrais ajouter aussi que la diversité, on la retrouve aussi au sein d'une même religion. J'ai dit toujours qu'entre un catholique irlandais et un catholique de l'Italie du Sud, il y a quand même beaucoup de différences, telles qu'on pourrait la trouver entre justement un catholique et quelqu'un issu d'une autre religion, notamment dans tout ce qui est rapport au corps et évidemment dévotion populaire.
Thank you.
Cette émission des Racines du Ciel se termine avec l'agenda culturel, Lélian Var.
Vous avez dirigé, Thierry-Marie Courreau, la publication d'un ouvrage collectif qui s'intitule « Entreprise et diversité religieuse, un management par le dialogue ». Donc vous êtes véritablement un homme des dialogues, et dans lequel vous abordez justement, enfin sont abordés les problèmes que pose la diversité religieuse aux entreprises, en particulier la question des rituels propres à chacun, et comment les résoudre.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, ce que l'on commence à découvrir finalement, c'est que dans un grand nombre d'entreprises, ce qui était souvent de l'ordre du déni apparaît, c'est que des questions de requêtes religieuses, de requêtes de convictions religieuses surgissent. Et donc la question, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour résoudre cela. Et donc nous avons fait une commission pendant un an avec une vingtaine d'entreprises, de grandes entreprises, pour échanger sur ces questions-là. Et notre conviction, ça a été vraiment de se dire que finalement, c'était aux managers de, non pas d'appliquer des recettes, mais d'écouter ses collaborateurs et à partir de l'écoute, de pouvoir le conduire à trouver une solution en commun.
Alors je signale aussi brièvement un livre de l'un de nos invités, Hervé Elie Bokobza, l'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme aux éditions de l'œuvre, en un mot.
C'est un travail de fond qui vise à montrer la dimension universelle du judaïsme et l'ouverture aux nations. Et que l'important, c'est de sortir des préjugés, de croire que chacun doit être confiné dans ses remparts. L'idée de cet ouvrage, c'est de montrer, en revenant aux textes rabbiniques les plus essentiels et bibliques, à la fois la relation entre la révélation du Sinaï et l'humanité, la relation, l'égalité des êtres humains à partir des sources juives. On déconstruit le mythe de Cham, par exemple, ou le rapport entre l'âme divine, la providence divine. Le rapport d'amour et de relation avec l'étranger, l'évolution du rapport social, la reconnaissance des autres religions monothéistes dans les sources juives, l'importance d'enseigner la Torah aux non-juifs, et la dernière partie qui est complètement d'actualité, qui s'appelle « Judaïsme et citoyenneté », qui propose une étude de fond sur le rapport à la laïcité, au respect des lois de la République, et qui répond à partir des sources rabbiniques anciennes aux questions très concrètes, des signes religieux, etc. Et à mon avis, je pense que c'est salutaire dans une époque comme celle-là.
Tout à fait. Donc l'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, audition de l'œuvre. Et je rappelle, votre ouvrage collectif à tous, Rites, fêtes et célébrations de l'humanité aux éditions Bayard. Merci beaucoup. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Éric Sablé, qui nous parlera de la spiritualité de François d'Assise. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.